L'âge de la poésie.
Être et savoir. Louise Touret.
Bienvenue dans le magazine de l'éducation et de la transmission des savoirs sur France Culture. Nous sommes ensemble pour 45 minutes pour parler de poésie. Comment la poésie se transmet et circule entre les générations, à l'école et ailleurs. Et après, nous allons évoquer en particulier le rapport si singulier des enfants à la poésie. L'enfance est-elle l'âge de la poésie, grâce dans les classes aux récitations des poètes Victor Hugo, Maurice Carême, Jacques Prévert, que l'on a célébré le 11 avril pour la commémoration de sa mort, et grâce à la sensibilité propre à l'enfance, à cette perméabilité des cœurs tendres aux vers, prose et images poétiques, que l'on y évoque l'amour, la joie, la tristesse ou la nature. Vous allez donc entendre dans cette émission des enfants le dire avec leurs propres mots, si beau, dans un reportage. Et puis après l'école, quel chemin la poésie peut-elle prendre pour circuler jusqu'à nous et nous jusqu'à elle avec des images et des musiques, souvent sur les internets, les écrans animés, dans ce qu'on appelle la pop culture, parlerait-on de pop poésie d'ailleurs. La poésie que nous pouvons rejoindre dans des lieux physiques aussi, puisque la poésie se déclame ou simplement se dit et se montre, se regarde. Alors comment retrouver la poésie après l'enfance et peut-être retrouver de l'enfance dans la poésie? Nous allons soumettre aussi cette question à nos invités. C'était l'enfer, le lycée. C'est du moins ce que raconte l'autrice et illustratrice Marion Montaigne dans la leçon de choses de Sophie Bobert. Marion Montaigne, c'est une spécialiste de la vulgarisation scientifique en bande dessinée. Elle republie Panique organique et on la retrouve donc dans les 5 dernières minutes d'Être et Savoir. Trois invités, dont deux poètes. Mais on commence avec vous, Delphine Maury. Vous êtes productrice, vous n'êtes pas poète.
Non.
Mais vous faites beaucoup pour la poésie, puisque vous produisez un programme qui s'appelle « En sortant de l'école ». Alors évidemment, moi, ça m'a rappelé une chanson.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher les oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré
des oursins. C'est Yves Montand qui fait grésiller. Les R, c'est entendre trois tours que beaucoup d'enfants des années 70 comme moi ont eu. C'était très populaire à la fois d'écouter Jacques Prévert et puis des cassettes et des vinyles de poésie à cette époque. C'est une référence évidemment, Delphine Maury, le nom de cette série que vous proposez sur France Télévisions, à cette mémoire des parents d'aujourd'hui.
Elle le doit à cette chanson, à ce poème. Parce que quand on a monté ce projet avec Pierre Siracusa et Joseph Jacquet à France Télévisions, ça correspondait parfaitement puisqu'on voulait mettre de la poésie à l'écran pour les enfants et que les films d'animation soient fabriqués par des jeunes qui sortent des écoles d'animation. Donc chaque année, mettre à l'honneur un poète à travers le regard de 13 jeunes réalisateurs et donc par le prisme artistique de 13 jeunes, éclairer les mots des poètes pour les enfants. Donc ça fait beaucoup de contraintes sur un temps qui est toujours le même, toujours des films de 2 minutes 40.
On y reviendra. Alors, deux poètes avec nous. Olivier Barbaran, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous n'êtes pas seulement poète, essayiste et spécialiste d'Aragon. Vous êtes aussi inspecteur général de l'éducation nationale. C'est plus habituel ici. Doyen du groupe des lettres. Et vous avez publié récemment Un grand instant chez Champvallon, un recueil de poésie. Cécile Coulon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice, poétesse, prix Apollinaire 2018 pour un recueil qui s'intitule « Les ronces », publié au Castor Astral. Alors le prix Apollinaire, c'est un grand prix de poésie, c'est le grand prix de poésie français. Donc bravo, et je vous ai écouté, Cécile Coulon, cette semaine, dans beaucoup d'interviews, et vous avez dit cette phrase que je trouve extrêmement jolie. Un poème, c'est comme une ronce, et un recueil de poèmes, c'est comme un bouquet de ronces.
Oui, parce que il y a ce rapport à la fois épidermique, brutal, et en même temps, toute personne qui s'est déjà promenée en forêt, c'est ce qu'il y a derrière les ronces, et c'est ce qui est bon, c'est ce qui est sucré, et c'est dans quoi se jettent enfants et adultes. Et j'ai appris aussi en écrivant ce texte qu'on pouvait faire du miel de ronces, et ça m'a un peu heurtée, et je me suis rendu compte qu'un poème, pour moi, c'était ça, en tant que lectrice en tout cas, c'était la capacité d'un texte assez court de vous percuter tout en étant d'une beauté presque infâme.
Vous écrivez des romans, vous avez aussi écrit des essais, Cécile Coulon. Pourquoi la poésie et des textes qui au départ étaient publiés sur les réseaux sociaux ?
Oui, au départ, c'était sur Facebook. C'est encore sur Facebook. J'ai utilisé Facebook à l'époque où c'était pas encore ringard d'ailleurs, pour poster des poèmes en ligne, voir s'il y avait des gens que ça pouvait attraper. Et au bout de 6 ou 7 ans, on m'a demandé en fait d'en faire une version papier parce qu'il y avait toute une communauté de lecteurs qui s'était construite autour de ces textes-là. Et il se trouve que c'est assez rare pour être signalé, ce texte, en tout cas ce recueil, est la fin d'un processus. Ça n'a pas d'abord été l'édition, puis la découverte des lecteurs. Ça a d'abord été la découverte des lecteurs, puis l'édition papier.
Comme ça arrive de plus en plus dans la littérature et dans plein de genres de littérature, mais donc aussi pour la poésie, cette poésie, vous pourriez la mettre, et vous d'ailleurs l'introduisez, dans votre prose romanesque.
Il se trouve que jusqu'ici, j'instaurais des pauses poétiques dans mes textes, au moment où il fallait décrire des paysages notamment, et décrire la nature, décrire la campagne. Je crois qu'à un certain point, le fait d'avoir comme leitmotiv d'écriture ne jamais rien dire d'autobiographique a fait que je débordais d'émotions, et que ces émotions débordantes, très intimes et très personnelles, je ne pouvais les écrire qu'en poème.
Et on va rester, Cécile Coulon, dans l'univers des émotions, mais à l'école. Alors, je me suis rendue cette semaine sur le plateau de Belleville, à l'école La Villette, à Paris. Cette école a reçu le label École en poésie, ça existe. Et Madame Madin, qui est professeure des écoles en CE2, m'a reçue avec ses élèves dans sa classe. Ils ont choisi collectivement d'étudier André Chédide. Et puis, ils ont écrit un poème que nous allons commencer par entendre. Et puis, ils vont nous parler de ce qu'ils font ensemble dans ce reportage réalisé par Philippe Baudouin.
Tu prends jusqu'à quoi dans ta tête et tu dis le titre. Top.
Qu'est-ce que la beauté par la classe de CE2A ?
C'est la joie d'être avec ses amis pour son anniversaire.
Ce sont des parents qui donnent la vie à un enfant.
Ce sont les maisons construites en blocs de quartz, on dirait la mer.
La beauté.
Ce sont les félins.
C'est chaque seconde passée avec les autres.
C'est l'odeur d'un gâteau quand il est encore chaud.
C'est la nature qui emplit mon cœur d'émotion.
Mars 2019.
Quel que soit le poète ou la poétesse qu'on donne à lire aux enfants, quelle que soit son origine culturelle, quelle que soit l'époque à laquelle le poème a été écrit, c'est universel ce qu'il y a dans les mots. Et les enfants ressentent ça, et ça leur permet de mettre des mots sur leurs émotions. Et les enfants n'ont pas de filtre. Du coup, ce qu'ils ressentent dans la poésie, ils l'expriment, que ce soit de la joie, de la tristesse, du bonheur. C'est pour ça que dans les écoles, c'est toujours quelque chose de merveilleux d'apprendre une nouvelle poésie, de faire découvrir une nouvelle poésie aux enfants.
J'adore la poésie, ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi, ça me libère un peu de toutes mes émotions qui sont fâchées toute ma journée, ça me libère de beaucoup de choses.
Ça me touche le cœur. Et j'aime bien la poésie parce que tu peux écrire toutes sortes de poésie pour faire ressentir ta joie ou ton humeur.
Dans mon imaginaire de la poésie, il y a toutes ces poésies que j'ai récitées lorsque j'étais enfant et que j'ai envie de transmettre à mes élèves. Je m'imagine pas voir un élève de l'école élémentaire qui ne connaisse pas une poésie de Jean de La Fontaine, qui ne connaisse pas une poésie de Jacques Prévert ou de Maurice Carême.
Et j'adore la poésie parce qu'à un moment, le poème devient tellement beau que ça devient triste.
André Chédine, elle m'a poussée dans le train des poètes qui m'a amenée dans une autre dimension et j'ai mieux compris la poésie.
J'aime bien la poésie, sauf que j'aime pas les apprendre parce que chaque fois, c'est trop long.
La poésie, si elle est seulement apprise pour être récitée, on lui enlève quelque chose de sa substance. Donc ce qui est intéressant à l'école aujourd'hui, c'est de donner aux enfants un poème, qu'on le lise, qu'on cherche ce qu'il y a à ressentir, et l'apprentissage vient tout seul.
Le titre de l'auteur, je crois que c'est Maurice Carême.
Non, c'est René de Obadia.
C'est René de Obadia.
Et toi, la poésie, ça te fait rire alors?
Bah oui, parce que il y a marqué le gélatineux, génier dans le jasmin.
Merci à Madame Madin, à Gaston, à Jeanne, à Joyce, à Zachary, à tous les élèves de la classe de CE2 de l'école La Villette. Olivier Barbaran, alors est-ce que vous buvez du petit lait, vous, inspecteur et doyen des lettres à l'éducation nationale, en écoutant ces élèves si bien parler de poésie?
Évidemment, ils n'en parlent bien que parce que, je crois, le professeur des écoles a bien travaillé avec eux. Notre collègue dit une chose essentielle, qui est que l'apprentissage par cœur ne suffit pas trop souvent. Au lieu de savourer des poèmes, on les apprend, ils sont débités avec un rythme précipité. Tout ce qui est l'intérêt aussi de la poésie, les enfants insistent beaucoup évidemment sur le terrain émotionnel, parce que c'est avec cela qu'ils vont creuser en eux-mêmes les moyens d'arriver à une émotion. Je pense que la poésie, c'est un moyen de transformer une émotion en expérience, et c'est cela qu'on leur dit. La manière d'habiter soi-même sa propre parole et d'habiter soi-même sa propre existence, c'est donc fondamental. Ce n'est pas un décorum émotionnel en plus, c'est peut-être le socle même de toute éducation. Ce qu'il y a de bien, c'est que les enfants disent ici quelque chose d'important, qui est que la poésie se savoure. Enfin, ce garçon qui a compris ce qu'il en était du jeu de mots, des sonorités, c'est par là sans doute qu'on rentre dans la langue, et c'est peut-être la chose que nous savons pour l'instant le moins bien faire, c'est-à-dire qu'on apprend des poèmes.
À l'école.
À l'école, oui, on apprend des poèmes, peut-être qu'on ne passe pas assez de temps à les savourer, à s'interroger sur cette activité toute simple, au lieu de faire réciter, de les dire, en s'interrogeant sur... Pourquoi le dire ainsi? Qu'est-ce qui se passe à tel moment? De façon à ce que les enfants s'approprient en même temps que le sens et la dimension émotionnelle du poème, aussi cette puissance du langage qui, par sa forme, produit des émotions et des expériences. Et là, je crois que la profondeur de ce qu'ils disent, avec beaucoup de spontanéité, prouve que c'est atteint. On y est arrivé.
Mais en même temps, cette récitation... Alors, par exemple, quand on dit le gélatineux géniait dans le jasmin, je me dois de le reprononcer. C'est une phrase que le jeune Gaston connaîtra sans doute toute sa vie par cœur. Et au-delà des poèmes, on peut interroger des gens très âgés qui se souviennent de poèmes appris à l'âge des enfants qu'on vient d'entendre, à 8 ans. N'est-ce pas aussi un lieu de mémoire de l'école au sens de Pierre Nora, de mémoire immatérielle et collective?
Oui, peut-être qu'on peut concilier les deux. Il ne s'agit pas du tout d'empêcher une mémorisation. Je crois qu'effectivement, nous sommes tissus nous-mêmes de tous les vers que nous connaissons. Et donc, il n'est pas question de supprimer la mémoire. Il s'agit peut-être simplement d'accéder à une mémoire qui n'oublie pas non plus la saveur. Et j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver dans les équilibres, alors qu'ici, c'est parfaitement fait, et dans certaines écoles, c'est très très bien fait, mais pas partout. Et l'équilibre à trouver entre une pure mémorisation, qui serait un peu la petite ritournelle sur laquelle tous les poèmes, d'ailleurs, quel que soit leur rythme, sont débités, et puis l'appréciation véritable du rythme, de la saveur, de la substance des mots. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Enfin, essayer de faire des ateliers de diction, et puis ensuite de passer à la restitution et à l'apprentissage par cœur, pourrait être une manière aussi, je crois, de faire progresser les élèves dans l'amour du langage, qui n'est peut-être pas un amour parfaitement partagé.
Mais à 8 ans, leur cœur est si tendre, et on l'entend. Ça... Quand on passe en sixième, en cinquième, en troisième, ça devient beaucoup plus compliqué pour les enseignants.
C'est sans doute plus compliqué. Il faut dire aussi que cet enthousiasme juvénile vis-à-vis d'un langage qu'il découvre et dont il découvre justement qu'on peut jouer avec, effectivement, se distend de même qu'une certaine forme de pudeur s'empare de nous, chacun le sait. Donc ils écrivent peut-être plus qu'ils n'en disent, peut-être qu'il faut qu'on en tienne compte, mais je crois qu'on pourrait partir des écrits des élèves ou de la confrontation des élèves pour alimenter leur propre écriture, fût-elle secrète, pour pouvoir continuer à garantir la présence de la poésie. D'abord, il faudrait être sûr que l'enthousiasme se perdent, parce que d'une certaine façon, ils se jouent autrement. On est frappé de voir à quel point des élèves disent ne pas aimer la poésie qu'ils étudient, mais à quel point ils en écrivent. Ils ont donc bien un rapport avec leurs propres émotions, mais qu'il ne s'agirait peut-être pas de rendre public, de rendre partageable ou d'en faire une matière scolaire. Mais enfin, les émois adolescents continuent de s'écrire et de s'écrire beaucoup. Le pire, c'est ce que j'ai vu encore dans un collège où le professeur, croyant bien faire, commençait par dire « Bon, maintenant, attention, ça va être difficile, on va faire de la poésie. » En sanctuarisant la poésie comme un moment solennel et très impressionnant, on éloigne les élèves de sa quotidienneté et du rapport qu'ils peuvent avoir avec elle.
Cécile Coulon.
Je crois qu'en fait, mais c'est ce que Olivier vient de dire, il y a un fossé entre le fait d'écrire soi-même pour soi, pour formuler ou pour mettre des mots sur ses émotions, et la peur incroyable qu'il y aurait à réciter ses émotions très personnelles devant une classe et encore plus à être noté, parce qu'on oublie ça aussi, ce qui va avec la récitation. Alors au collège, moi c'était mon expérience personnelle, c'est qu'on tous les samedis matins, il y avait récitation devant la classe et on était noté. Si on faisait les liaisons, il y avait un point en plus. Si on allait trop vite, qu'on mangeait des syllabes, il y avait un point en moins. Donc c'était extrêmement, pour le coup, sanctuarisé et très formel. Donc il y a une très très, comment dire, il y a un fossé, oui, entre le fait d'écrire pour soi et d'avoir cette espèce de, peut-être à l'adolescence, de courage de dire devant toute une classe, devant des gens qui nous connaissent, voilà ce que moi je ressens. Vient un moment où on écrit pour soi au sens propre du terme, c'est-à-dire on écrit pour soi parce qu'on refuse d'être lu par les autres, parce qu'on a peut-être un peu honte de ce qu'on ressent et c'est aussi pour ça qu'on écrit. Et je pense que je pense effectivement qu'on ne peut pas. Alors, est-ce qu'il s'agit d'enseigner ou de faire découvrir la poésie en classe primaire comme au collège, comme au lycée? Parce qu'au lycée, après, il y a toutes les, comment dire, il y a ce qu'il y a au programme du bac, il y a souvent de la poésie. Et alors là, il s'agit carrément de, on parle de métrique, on parle de pied, on parle de vers, on parle d'histoire de la poésie, c'est encore autre chose. Mais il y a des âges pour la poésie et la poésie pour tous les âges.
Est-ce que ça fait partie de votre expérience de poétesse? Vous dites poétesse? Vous dites poète?
Vous dites ce que vous voulez, vous. Moi, je dis poète.
Ouais. Alors, est-ce que ça fait partie de votre expérience de poète?
Moi, le premier souvenir que j'ai de la poésie à l'école, c'était quand on était en maternelle, de nous faire écrire des poèmes pour la fête des mères, où il fallait mettre des rimes à la fin. Et tout le jeu, c'était « faites un poème, mais l'important, c'est qu'il y ait des rimes à la fin ». Ce qui est un peu idiot, parce que heureusement que la poésie ne se doit pas d'être rimée, parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie sinon? Même s'il y en a qui sont très très belles, hein, évidemment. Après, il y a eu la poésie récitée au collège. Je me souviens d'avoir appris par cœur tout un tas de poèmes de Victor Hugo sans les comprendre. Et je pense réellement que jusqu'à l'âge de 15-16 ans, la poésie était juste un support mémotechnique, quoi. C'était histoire de travailler sa mémoire, histoire de travailler la diction aussi, évidemment. Mais je ne comprenais absolument pas ce que je récitais. Il m'a fallu des années après être sortie de cette fameuse classe pour comprendre ce que disaient ces poèmes. Et il y a eu le moment où je me suis mise à en écrire pour moi, mais comme beaucoup de gens de ma génération, très vite elle a atterri sur les réseaux sociaux, puisque j'avais évidemment la grande illusion que les gens qui étaient sur Facebook étaient mes amis, avec des énormes guillemets. Et petit à petit, je me suis aussi rendu compte que finalement, la plupart des gens n'ont aucune envie de se moquer de ce que vous ressentez intérieurement, puisque ils ressentent peu ou prou la même chose.
Ce premier vers des ronces, à vrai dire, j'ai la chance d'avoir un très bel avenir derrière moi, avec des grandes maisons hautes, blanches, des toits d'ardoises et des nids de plumes d'oie sous les combles où des hommes et des femmes ont fait l'amour pour la première fois. Je ne vais pas pouvoir le lire entièrement, mais je voulais qu'on entende un petit peu vos mots, Cécile Coulon. Cette poésie qui est une manière de s'exprimer très personnelle, elle est aussi un jeu sur les mots. Et puis, elle doit pouvoir être partout. Comment est-ce qu'on fait circuler autrement la poésie? C'est là que je voulais en venir. Et des poètes du XXe siècle, comme Jean Tardieu, avant de se poser la question ensemble, on va écouter justement un petit numéro d'En sortant de l'école, La nature.
Nature, Jean Tardieu. Pleurant.
C'est un nuage qui parle en rêvant.
Un travail de création. On a parlé, Delphine Maury, des images, de l'animation, mais on entend aussi un immense travail de création sonore.
Oui, oui.
Alors comment, vous qui êtes la productrice, comment vous pensez tout cela? Et est-ce que quand vous pensez cette création sonore et en images, tout est conçu en direction des enfants?
La caractéristique de ces films-là, c'est qu'on fait un énorme travail d'écriture en amont, puisqu'on part pendant un mois en résidence d'écriture pour pouvoir poser sur le papier quelle adaptation chacun va faire des poèmes. Et là, quand je dis écriture, c'est que véritablement, on passe par un scénario, et dans ce scénario, les réalisateurs doivent développer leurs intentions sonores, musicales, autant que graphique. Et on dit qu'un dessin animé, c'est 50% de son. C'est vrai que nous, quand on fait du dessin animé, on doit tout recréer. Et là, il n'y a pas qu'un seul, il n'y a pas qu'un travail de voix, il y a vraiment un travail de création de tous les sons. Et on a la chance depuis des années de travailler avec un bruiteur Follet qui fabrique les sons une fois que les films sont déjà un peu avancés, qu'on commence à avoir une sorte de squelette et de lignes de temps avec des plans bien posés. À ce moment-là, lui, il va pouvoir poser ses sons sous la direction des réalisateurs et il a une force de proposition. La caractéristique des films, c'est que il y a toujours plusieurs créateurs qui interviennent. Et donc là, c'est vraiment, on va dire, c'est des coproductions, puisqu'il y a les mots du poète, la vision du réalisateur qui décide plus ou moins de raconter une histoire autour des mots du poème pour les mettre en situation. Et parfois, il y a des choses abstraites, mais c'est plus rare. Et en même temps, l'animation se prête merveilleusement à l'abstraction. C'est ça qui m'intéressait, moi, au début, dans cette idée de faire des films sur des poèmes. Et puis, il y a la rencontre avec les musiciens aussi. Là, dans Nature, c'est un des cas un peu particuliers de la collection, c'est que régulièrement, sur les poèmes qui sont mis en film, les réalisateurs décident d'en faire des chansons. Et ça devient à la fois autre chose, et puis ça reste de la poésie, parce que c'est aussi notre premier contact avec la poésie, c'est d'écouter les paroles des chansons. Moi, j'avais un papa qui me faisait apprendre mes poèmes, et donc c'était inconcevable pour lui que je comprenne pas ce que je dise, et donc il m'expliquait les poèmes pour que je puisse les dire justement. Donc moi, ça a toujours été lié à du sens, le fait de dire des poèmes par cœur, et c'est ce qui m'a amené à essayer de comprendre les paroles des chansons et tout ça. Et donc, effectivement, quand on fait un dessin animé sur un poème, tout fait sens, et en même temps, c'est ce que je dis en permanence, je trouve que c'est vraiment le lieu du mystère aussi, la poésie, et que quand les enfants, à la sortie de la salle, ils disent « voilà, j'ai rien compris à celui-là », Je trouve que la caractéristique des poèmes, c'est que ça pose plus de questions que ça donne de réponses. Et je pense que les enfants sont vraiment les humains qui sont confrontés au monde de la question sans réponse, peut-être plus que nous, les adultes. Et c'est pas qu'ils s'en accommodent, on s'en accommode différemment selon les enfants. Mais donc le fait que pour moi les poèmes soient pas explicites, ça me pose aucun problème. On est vraiment là dans une approche artistique, mais ce qui m'importait, c'était de proposer une vision graphique de ce que les mots nous donnent, parce que au tout début je n'avais pas eu cette idée de faire des films sur des poèmes. Je voulais prendre des textes de philo hyper compliqués et je voulais voir ce qui se passait quand je les donnais à des réalisateurs, un peu à la manière de ce que j'aime faire quand j'aime bien regarder les gens qui font des dessins au téléphone, en fait. Et je voulais savoir qu'est-ce que les gens allaient dessiner sur les mots des poètes. Et puis c'est vraiment avec la rencontre de Jenny Prévert que tout d'un coup elle m'a dit, si tu veux, t'as qu'à jouer avec le poème de mon grand-père. Donc on a pu lancer le projet comme ça, mais on est parti vraiment, mais comme des aventuriers, parce que c'était étrange a priori de proposer quelque chose comme ça, et en même temps qui était juste une proposition pour aller plus loin que la page de droite des poèmes qu'on laisse aux enfants et qui les embarrassent une fois sur deux, quoi.
Après, la page de droite, ouais, à côté de la page
du poème, on doit faire le fameux dessin.
On fait le dessin. Ouais. Écoutez quand même, parce que Jeanne du CE2 de la Villette nous a raconté ce qu'elle avait dessiné.
Je dessine quelqu'un qui est en train de planter des flambeaux pour éclairer la nuit et pour relever les ténèbres et qui essaye de persévérer, qui a l'espérance d'y arriver. Elle n'est pas sûre d'y arriver, mais elle a l'espérance d'y arriver. Donc, ça se trouve, elle peut y arriver parce qu'elle a quelque chose en elle qui lui fait oser de faire ça. Et donc, elle a vraiment envie de le faire.
Non, voilà, c'est dingue.
Ce que t'es en train de dessiner, ouais. Jeanne. Moi, je pense qu'elle fait partie des poètes que j'aurais rencontrés cette semaine, Cécile Coulon.
Il y a dans ces mots, évidemment, une spontanéité et une beauté. Et en même temps, derrière ça, on se dit une acuité incroyable, mais qui, en fait, va avec l'imaginaire qui est déployé et cette capacité à dire les choses extrêmement simplement. Et je reprends les mots qu'avait dit un autre enfant en disant « à un moment donné, ça devient triste tellement c'est beau ». Et c'est un peu le cas, là.
Et c'est un peu la définition, une des définitions de la poésie. Alors, il y a des poèmes partout, mais est-ce que... Il y a de la poésie partout. J'étais dans le métro hier, comme des millions de gens, et puis je lisais un petit poème là au-dessus des publicités. Il y a un tout petit peu de place. Alors on met des poèmes, et d'ailleurs le Grand Prix Poésie de la RATP, eh bien on peut encore y participer jusqu'à ce soir minuit. Ça fait 5 ans qu'il existe. Et il y a beaucoup d'écrivains ou d'apprentis poètes qui participent. Qu'en pensez-vous, Olivier Barbaran, sur cette circulation nouvelle, ces poèmes à emporter en petites animations et puis ces poèmes dans la ville?
Ce que je peux penser de la circulation générale de la poésie dans notre société, c'est que nous sommes dans une période de véritable mutation. Et ce travail qui va d'une publication et d'une appropriation ou d'une découverte à finalement l'édition est réversible d'ailleurs. Parfois des textes édités, quand il rencontre un lecteur, la première chose qu'il fait, c'est comme on tenait son cahier on tenait son propre carnet dans lequel on recopiait les poèmes qu'on aime. Maintenant, on les recopie numériquement et ils circulent ainsi. L'oral, l'image, les réseaux sociaux sont autant de processus, je crois, d'une véritable circulation, un peu souterraine, un peu clandestine, non organisée. Je dois avouer, je préfère celle-ci aux opérations qui me semblent toujours... Enfin, j'ai toujours un petit peu de difficulté, moi, dans le métro, quand je fais la même expérience que vous, à voir palpiter deux vers, parfois arracher un poème plus long, ou parfois la mise en avant seulement des formes très très brèves, parce qu'il faut quelque chose de très très rapide, et rien de plus beau que le haïku. Mais il tombe là, dans une sorte d'anonymat qui me rend presque plus triste pour la poésie que si elle n'était pas là. Enfin, j'ai beaucoup plus de plaisir à imaginer, ou à voir, de temps en temps, parce qu'on en voit, un étudiant avec un livre de poésie, qu'à voir flageoler dans l'air du métro, cette espèce de petit panonceau. Il me semble qu'il y a des opérations de promotion qui, s'inscrivant dans une logique communicationnelle et communicante, ne vont pas avec la poésie en tant que justement elle est une vraie expression, une vraie communication, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas par cette espèce d'officialisation. D'où d'ailleurs la difficulté pour l'école. Il faut faire de la poésie, mais pas de manière scolaire dans le mauvais sens du terme. Et peut-être que cette dimension d'une circulation un peu plus clandestine, un peu plus complexe, dans une société de saturation de messages, on a besoin d'un peu de silence avant qu'elle ne commence à reparler, et c'est peut-être pas si mal qu'elle travaille plutôt avec des individus passionnés qui les envoient, qui se les renvoient, enfin qu'il y ait une communauté comme ça de ceux que Supervielle appelait les amis inconnus et qui circulent de façon un peu clandestine, me paraît presque son vrai lieu et sa vraie communication.
Alors je tiens à dire que je vous ai lu dans le métro, Olivier Barbarin, et Cécile Coulon également. Donc, il y avait une personne qui lisait des poésies dans le métro et le RER. Vous parliez des amis inconnus. Ben, ces amis inconnus, c'est un peu ceux de Facebook, par exemple, dont vous parliez, Cécile Coulon. Et puis sur Twitter aussi, où des comptes poétiques peuvent avoir beaucoup d'abonnés. Je pense à Popésie, que je suis, qui fait aussi beaucoup de petites blagues très drôles. Et puis à Thomas Delogis, dont les poèmes animés sont diffusés sur la chaîne parlementaire et puis sur Twitter. Pourquoi ? Parce que ce sont des poèmes d'actualité. Écoutez.
Un poing levé dans une manif à jeune espoir de redébattre du tarif du droit de vivre. On lui répond qu'on l'a compris et lui propose d'en débattre à main levée, plutôt qu'en rond-point serré ou en matraque. Mais le poing craint que débattre ait peu d'effet sur son salaire et que du tarif l'énarque fasse une question de vocabulaire, une farce à l'attrape-moi si tu peux. Mais quand le temps en passe, à s'échanger les yeux plutôt que les claques, apparaissent quelques mieux, disparates et tardifs, dont la survie dépend d'un vœu, que le droit de vivre ne soit plus un tarif.
Référence à l'actualité du grand débat national et des gilets jaunes, poésie d'actualité. Que cela vous inspire-t-il, Cécile Coulon, qui est aussi poète ?
Alors là, du coup, moi, je suis pas du tout objective parce que je connais un peu Thomas Delogis, et c'est quelqu'un qui, avant de faire ses poèmes d'actu, avait déjà mis beaucoup de cœur à essayer de faire une cartographie de la poésie contemporaine en rencontrant énormément de poètes, en faisant beaucoup d'interviews, en regardant les différents moyens de transmission aussi. Et c'est vrai que je crois que le premier poème d'actu, c'était sur le Brexit, le deuxième sur les Gilets jaunes et le troisième qui vient de sortir sur Bouteflika.
Oui.
Alors, c'est marrant parce que ça flirte parfois un tout petit peu, et je pense que c'est le rythme de la musique, avec une forme de, pas de chanson, mais de... Je déteste le mot slam, parce que j'aime pas, moi, personnellement, le slam, mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent en pensant que ça y ressemble. Je crois, par contre, que il y a là, et c'est pas parce que ça passe à la télé que c'est plus, transmis, je pense qu'il y a une forme de diction et une forme d'appui sur les mots qui remet chaque sens au cœur du débat, justement. Et ça, j'aime bien. Contrairement à un moment, à une période où on parle très vite, où tout se fait extrêmement vite, où on est saturé de messages, comme disait Olivier, là, tout d'un coup, il y a dans cette forme-là, je trouve, un temps qui est pris et qui est assez agréable et nécessaire à écouter.
Et un choix des mots où l'on sent qu'on va au rebours des prises de parole politiques, éditoriales, au sens des éditorialistes, où les mots retrouveraient leur sens. Moi, c'est ce que je comprends du travail de Thomas Delogis. Que pensez-vous de ces poèmes d'actualité ? Est-ce que ça pourrait d'ailleurs séduire un jeune public plus adolescent, par exemple, Olivier Barbarin ?
Je l'imagine. Chaque époque connaît aussi sa poésie engagée. Ce qui est dommage, c'est quand c'est la seule forme de poésie, puisque comme si la poésie, pour exister, devait forcément être engagée. Mais ça a toujours été ainsi. La poésie répond aux grands moments de l'histoire, elle est toujours au rendez-vous et c'est les moments où elle se vend le plus. Victor Hugo ne doit pas à son génie lyrique sa popularité, il la doit à son engagement politique. L'auteur dont je suis spécialiste, Aragon, est presque recouvert par son propre militantisme. La poésie se vendait et s'écoutait particulièrement pendant la poésie de la Résistance, et c'est celle qui demeure la plus populaire et la plus
riche. Il y a un prix scolaire des poésies de la Résistance.
Oui, et en plus, il est normal qu'on les transmette, mais simplement, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est-à-dire que c'est une des formes de la poésie, c'est un de ses moyens d'intervention, sa brièveté, son efficacité, sa pertinence sonore, et effectivement, je n'en ai entendu à ce point le mot claquer comme il a claqué dans la bouche de l'orateur-chanteur. Donc, moi aussi, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de la chanson. Ce sont autant de moyens qui prouvent la puissance de la poésie. Ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment des attentats, et c'était peut-être un sujet important de réflexion pour nous, au moment des attentats sur les réseaux sociaux, pour essayer de dire quelque chose de l'unité du pays, j'ai vu refleurir, puisque j'ai des alertes pour suivre mon auteur, j'ai vu refleurir énormément de poèmes d'Aragon ou d'Éluard de la période de la Résistance pour parler de la France et célébrer une France unie. Ça m'a à la fois rassuré en me disant de quoi on a besoin dans les moments de crise, et bien d'une parole qui nous réunisse et qui soit une parole vraie. Et en même temps, ça m'a un peu inquiété en me disant mais il n'est pas possible qu'on doive faire appel à des poèmes d'il y a 70 ans pour dire l'actualité d'aujourd'hui. Peut-être que ce type de poésie est une des manières de répondre aussi au fait que notre histoire, se faisant, a droit à cette parole-là. Simplement, il faut toujours se méfier quand on est poète, hein, et parce que on voit bien aussi comment on peut vous assigner à cette place-là, à quel point Aragon a dû se battre pour avoir le droit d'écrire autre chose que du bien du parti qui était le sien. Et certains lecteurs vous assignent à une place en vous disant « il faut que tu parles de... » Il y a très beaux poèmes aujourd'hui sur le sort des migrants et sur l'atrocité que nous vivons. Il y a aussi tous les dérives qu'on connaît bien de la poésie engagée, c'est-à-dire une sorte de bien-pensance ou un sentiment d'être du côté du bien. Les ronces poétiques ne doivent pas être du côté du bien, elles doivent être du côté où ça gratte.
Est-ce que le risque de la poésie scolaire, ce serait de réserver et d'assigner une place précise de laquelle la poésie ne sortirait pas?
Oui, je crois. Je pense même d'ailleurs que la poésie n'est pas un genre. Enfin, elle est un genre, elle existe comme genre. Mais quand on fait de la poésie à l'école, on travaille sur une dimension essentielle qui est de donner l'amour de la langue, voir ce dont la langue est capable, ce qu'elle peut faire. Et ça peut très bien se trouver effectivement dans une page de roman parfois. Mais lorsqu'on fait de la poésie, on a l'impression qu'il y a deux ou trois contraintes et que, tiens, soudain, la langue se met à être un peu efficace. Ou bien, tiens, il faut commencer à regarder si les mots ont plusieurs syllabes ou pas plusieurs syllabes. Mais les mots ont plusieurs syllabes aussi en prose, plusieurs syllabes aussi dans le roman, plusieurs syllabes en théâtre. Elle est donc une porte d'entrée vers un rapport que nous avons à construire chacun avec notre propre langue pour éviter qu'elle ne soit qu'un carcan de fautes d'orthographe et de problèmes, mais qu'elle permette à quelqu'un de se dire « c'est le meilleur terrain de jeu que j'ai pour me construire et pour me dire ». Et c'est cela qu'on fait quand on fait de la poésie, et je crois que c'est par là qu'il faudrait qu'on puisse l'enseigner sans là encore trop la scolariser, mais en faisant une expérience qui articule la vie et le langage.
Merci à tous les trois. Les titres de vos livres, dont Les quatre saisons d'En sortant de l'école, à la page d'Être et Savoir sur le site de France Culture. On passe à la dernière rubrique de l'émission. Difficile d'imaginer l'autrice humoristique de Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, publiée chez Delcourt et dans la combi de Thomas Pesquet, ça c'était chez Dargaud. À ce point malheureuse, c'est Marion Montaigne, à ce point malheureuse et timide durant ses années lycée. Et pourtant, leçon de résilience et clin d'œil à la science dans cette leçon de choses.
Alors mon père n'est pas militaire, il travaillait à FGDF et donc il avait dû cocher l'option mutation. Mmh. Et donc tous les 4 ans, 4 ans et demi, c'était oh là, où est-ce qu'on va aller quoi, quel est le prochain lieu où il va nous annoncer qu'on va vivre. Et c'était un peu l'angoisse, enfin en fonction de l'âge, avec mes frères et sœurs, on se demandait. Donc on a fait, moi je suis née à La Réunion, j'ai pas trop de souvenirs des paysages. J'ai été à Saint-Maur, ensuite à Rennes, ensuite à Metz, ensuite on est revenu. À partir d'un certain âge, avec mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, on se retrouvait au grenier et on disait bon, ça va être pour bientôt quoi. Papa va nous annoncer où est-ce qu'on va se retrouver. Et là, souvent, c'était le soir, à la fin du dîner, mon père disait bon, on va là. Et alors là, quand vous êtes petit, vous regardez sur le calendrier de la poste et là, vous vous rendez compte que c'est à l'autre bout de la France, Rennes-Metz. Là, ça nous paraissait vraiment très très loin. Là, on commençait à se dire mais on verra plus jamais nos amis. Il va faire froid. En plus, c'était des déménagements des fois en milieu d'année. Donc, vous êtes à Noël dans les cartons et vous faites une rentrée scolaire à 8 heures. Il fait nuit, vous ne voyez pas les autres enfants qui susurrent, c'est la nouvelle. Donc, vous avez la trouille. Ouais, non, c'était un peu la trouille. Donc, c'était on chialait. On chialait, mes parents étaient désespérés. Puis après, bon, bah... comme des vieux poneys blessés, on se remettait de tout ça. Non, mais c'est vraiment, je te parlais de poneys blessés, c'est, on est pas bien, puis on s'en remet petit à petit, parce que finalement, on a de la ressource, quoi, mais bon, c'est pas non plus l'enfer, c'est juste que c'est un peu des blessures comme ça, plus ou moins long. Mais l'humour, ouais, après, ouais, moi je dessinais, donc ça faisait marrer les autres, mais je suis pas sûre que c'est ça qui m'est...
Qui vous est rendu populaire, hein.
Non, j'étais pas trop populaire, non, j'étais vraiment pas populaire. Ah non, un an à Paris avec mes pulls tricotés par ma grand-mère, non, j'étais une plouque, non. C'était une période un peu chaotique où je parlais pas beaucoup, on se parlait pas beaucoup avec ma famille, et donc j'ai pas osé dire tiens, j'aimerais faire de la science. Et je pense avec le recul que je me suis beaucoup sous-estimée. Il paraît que les filles se sous-estiment pas mal à l'école, et alors je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou parce que c'est comme ça. Mais je pense que je me suis énormément sous-estimée en me disant il faut pas être bon, il faut être une brute, sans réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut avoir 18 sur 20 sans réfléchir, sans effort, parce qu'il y a des élèves comme ça. Et donc j'ai pas osé, et avec le recul, j'ai revu mes notes, et j'avais quand même 15 de moyenne en maths, dans un lycée assez difficile, 16 en bio, et je me dis que c'était dommage. Et donc c'est surtout, je trouve que c'est difficile à l'adolescence, c'est pas seulement de savoir ce qu'on veut faire, c'est aussi d'oser, parce que je trouve qu'on a une telle pression maintenant. Moi j'étais terrifiée, moi j'étais pas mal éduquée sur attention au chômage. Et donc il y avait une confusion comme ça, où en gros il fallait pas se louper, quoi. Il fallait faire le bon choix, et c'est difficile à cet âge-là de faire le bon choix. Donc moi j'ai pas trop osé... Et finalement, à la fin du lycée, je fais on va faire du dessin, parce que vu ce qui se présente devant moi, c'est le moins pire, quoi. Et ça a été vraiment l'échec d'orientation, en vérité.
Mais pourtant, rares sont les parents ou les conseillers d'orientation qui privilégient la filière artistique dans le but d'avoir un boulot, d'échapper au chômage. On va plutôt privilégier une classe prépa ou un itinéraire qui mène au fonctionnariat, non ?
Non, mais c'était de la non-communication, ça a été n'importe quoi à l'adolescence. Ouais.
Vous étiez très timide, en fait.
Mais j'étais ultra timide, j'étais super mal dans ma peau, c'était l'enfer le lycée, c'était horrible. Non, j'étais très très mal au lycée, je parlais pas, je parlais même pas à mes parents, donc ça a été très compliqué la fin du lycée.
Vous avez déclaré récemment, Marion Montaigne, avoir été déconcertée par la vision nostalgique qu'ont pu offrir certains dessins animés grand public, type Vice-Versa, type Coco, produit par les studios Pixar. Mais qu'est-ce qui ne vous va pas dans cette vision du monde et de la famille qu'on propose aux enfants actuellement ?
Moi, Coco m'a mis vraiment en colère parce que ça dit pas aux enfants. Moi, je trouve que ça, les dessins animés doivent dire, pour certains enfants, tu te débarrassant de tes parents, tu vivras mieux, en fait. Et ben, c'est moi, j'ai envie de leur dire, c'est en dehors de la famille que vous trouverez les gens qui vous aimeront, quoi.
Et Sophie Bobert me fait dire que Panique organique de Marion Montaigne vient d'être réédité. La semaine prochaine, nous ne parlerons pas du tout de poésie, nous parlerons des cantines scolaires, quoique. En attendant, vous pouvez retrouver nos podcasts et nous réécouter en ligne sur le site France Culture. Par exemple, merci beaucoup à Avril Ventura, avec qui je conçois et prépare cette émission chaque semaine. Merci à Philippe Baudouin à la réalisation. Merci à Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente soirée à l'écoute de France Culture.